France Info. Bonsoir à tous et bienvenue pour ces informés de l'été. Ils sont d'ailleurs venus avec des chemises à fleurs, des bermudas chatoyants et des tongs assortis. Malheureusement, ne vous précipitez pas sur le canal 27 de votre télévision, car les informés d'été, c'est uniquement à la radio pour vous. Et pour vous seulement, petit vénard. Allez, je vous les présente sans plus attendre. Bonsoir Saverio Rojek. Vous êtes journaliste politique, présentatrice sur Public Sénat. Antoine Boulet, bonsoir. Bonsoir. Partenaire chez Havas, spécialiste en com' de crise. Et nos deux partenaires presse, Antoine Colonna, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles. Patrice Moyon, bonsoir à vous.
Bonsoir Olivier.
Chroniqueur économique et social, éditorialiste à Ouest France, avec un programme encore très varié ce soir. Hein. Dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire après 20h30, nous parlerons de la situation extrêmement tendue entre l'Iran et le Royaume-Uni. Nous célébrerons le 75e anniversaire de la mondialisation. Et puis oui, nous parlerons des super-héros. Mais avant la deuxième partie, il y a la première. Et la première, ça débute maintenant. Et on va parler de politique. Vous avez tous suivi le psychodrame Rugy la semaine dernière. Omar m'a démissionné. Mais cette question maintenant, est-ce que Emmanuel Macron ne s'est pas rendu coupable de faits finalement tout à fait comparables lorsqu'il était ministre de l'économie durant le quinquennat Hollande? C'est le site de France Info hein, qui le rappelle aujourd'hui. Quand il était à Bercy, il recevait le tout Paris pour se constituer un carnet d'adresses. Alors pour François de Rugy, on parle d'une dizaine de dîners, mais du côté d'Emmanuel Macron, c'était quasiment tous les soirs, explique notre confrère Frédéric Seix, auteur du livre « Dans l'enfer de Bercy ». Est-ce que tout cela n'est pas répréhensible, Saverio Rojek?
Vous l'avez dit, moi je m'en tiendrai aux faits, et les faits sont documentés, il y a plusieurs sources, il y a eu des livres qui ont été écrits sur cette période. Effectivement, entre 2014 et 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, recevait beaucoup, il recevait matin, midi et soir, dit-on, le couple Macron recevait, voilà, pour...
Il recevait... On raconte même qu'il recevait plusieurs fois la soirée, hein, il y avait
Il y avait deux, trois dîners dans la même soirée pour maximiser, j'allais dire, ses rencontres, des rencontres...
Donc, à prendre du poids quand même.
Des rencontres avec le tout Paris, avec des personnalités, des people, Lynn Renault, Michel Houellebecq, des écrivains, Fabrice Luchini. Bref, c'est assez éloigné, on va dire, de ce qu'on imagine être les attributions d'un ministre de l'économie. Visiblement, le but de ces dîners, de ces rencontres, était de constituer un réseau et de lever des fonds, comme on dit dans le Nouveau Monde, hein, lever des fonds en vue de la future campagne En Marche. Bon. La différence, je tiens à le dire pour terminer, la différence avec l'affaire de Rugy, puisqu'il faut bien parler d'affaire de Rugy, c'est qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de homard, il n'y a pas de champagne, donc il n'y a pas de scandale aujourd'hui. En revanche, ces dîners ont bien eu lieu. Et pour terminer là-dessus, l'autre problème, c'est qu'il n'y a rien dans la réglementation aujourd'hui qui interdit les dépenses, les frais d'un ministère. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe globale. Il y a une enveloppe globale, mais après, libre au ministre de l'utiliser comme il veut. Et en 6 mois, les Macron avaient utilisé 80% de cette enveloppe de représentation des frais du ministère.
Saverio Rojek, on va demander à Patrice Moyon, parce qu'il fait des bonds sur sa chaise à côté de vous.
Saverio dit les faits, effectivement. D'abord, pour moi, il n'y a pas d'affaire de Rugy. En tout cas, en ce qui concerne les repas, il y a des frais de réception qui font partie. Il y a une enveloppe qui est accordée. Après, on peut discuter de la façon dont cette enveloppe est utilisée. De la même façon...
Il n'y a pas d'affaire de Rugy.
Pour moi, il n'y a pas d'affaire de Rugy. En tout cas, en ce qui concerne...
À Ouest-France, on défend les homards. Quoi, voilà, quoi.
Ce n'est pas les homards que je défends, mais Bretons.
Ouest-France évidemment. A sorti l'histoire de l'IRFM.
Certes, Ouest-France a sorti cette affaire-là, mais en tout cas, moi, à titre personnel, j'estime que ce n'est pas une affaire d'État. C'est-à-dire qu'on peut effectivement contester la façon dont peut-être il a mélangé les amis et des invités qui avaient un lien avec les affaires publiques. Mais pour moi, ce n'est pas une affaire d'État, ce n'est pas Cahuzac, ce n'est pas avec un compte en Suisse. De la même façon, Emmanuel Macron avait une enveloppe pour ses frais de réception, qu'il a utilisé certes 80% en 8 mois. Ça lui a servi de rampe de lancement. On peut discuter de ça.
Mais c'est justement ce qu'on fait là.
On restait dans le cadre de la loi tout de même.
Antoine Boulet.
Non, mais moi, j'hallucine, comme on dirait. C'est-à-dire qu'il faudrait que les ministres ou le président de l'Assemblée nationale soient mis sous cloche. C'est surréaliste. Ça ne lui a pas servi. Quand vous dites les faits, ça ne veut rien. Non, les faits, c'est qu'il a reçu un certain nombre de personnalités au ministère, mais ce n'est pas dire ça lui a servi à créer son réseau ou de rampe de lancement, ça c'est
campagne.
Une interprétation. Donc, moi, ce que je dis au contraire, je vais vous dire, moi j'ai été chef de cabinet d'un ministre, Stéphane Le Foll, à l'agriculture, et nous ne faisions pas de dîner. Eh bien, croyez que je le regrettais, parce que j'estime que c'est la responsabilité d'un ministre d'être au contact d'un ensemble de réalités de la société civile, et que d'un certain point de vue, rien de ce qui est humain ne doit lui être étranger. Parce qu'en étant ministre, il est ministre du gouvernement de la France, du gouvernement de la 5e, 6e puissance du monde. Et donc, si on estime que les ministres, nos représentants politiques, les députés doivent être comme ça, claquemurés, on dit n'importe quoi. Donc il n'y a pas d'affaire de Rugy, il n'y a pas d'affaire Macron, il y a une affaire de problème des Français aigres, jaloux, ce qui est absurde, parce que c'est, vous croyez que c'est drôle de faire trois dîners d'affilée, que c'est pas du boulot? Vous croyez que Macron, qui était chez Rothschild, qui gagnait 1 million d'euros par an, il est venu pour s'enrichir? C'est n'importe quoi.
Alors, quel était le but de ces dîners? Quelle est la raison pour laquelle le patron de Bercy, le ministre de l'économie, qui s'occupe des finances de la France et de nos impôts, reçoit Lynn Renon?
Mais le ministre des finances de la France, c'est pas d'abord un technicien, c'est pas le directeur général des finances publiques ou le directeur du budget. Le ministre de l'économie de la France, c'est un ministre qui est au contact de l'ensemble de la société. À ce titre, il peut voir qui il veut. Et c'est pas seulement les
dîners. Contribuable.
Mais aux frais du contribuable, c'est pas. Et de quoi parle-t-on? On parle de quelque. C'est epsilonesque par rapport au sujet des finances publiques et des dépenses publiques. Donc non, c'est n'importe quoi.
Antoine Goldin.
En tout cas, ça prouve que François de Rugy n'était pas candidat à la présidentielle, puisqu'il a beaucoup moins d'objets qu'Emmanuel Macron. Ça, c'est certain. Maintenant, je rejoindrai Antoine Boulet aussi sur le fait qu'on a une petite dérive, quand même, je dirais, de type scandinave. Moi, pour moi, la morale, il n'y en a qu'une. C'est est-ce que c'est bon pour les citoyens? Est-ce que le travail qui est fait par ces hommes publics donne ses fruits? Et je pense que là où je ne serais pas d'accord avec Antoine Boulet, c'est que dire que les Français sont aigris, je ne serais pas de cet avis. Je pense que les Français se serrent la ceinture depuis trop longtemps et ils voient que ça continue de festoyer et ils aimeraient bien qu'il y ait des résultats.
Alors vous parlez de dérive scandinave, beaucoup parlent du modèle scandinave. On va continuer à en parler dans les informés, mais d'abord, il est 20h10. Jules Dekis vient de nous rejoindre dans ce studio. Pour les titres.
Il y a eu une attaque à la voiture piégée à l'entrée d'une base militaire française au Mali, près de Gao. Il y a 3 blessés, d'après l'état-major français des armées. Emmanuel Macron a lu la tribune de Nicolas Hulot contre le CETA et il lui répond. Le président de la République estime que l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne va dans le bon sens. L'ancien ministre de la Transition écologique pense tout le contraire. Dans un texte publié ce matin sur franceinfo.fr, il demande aux députés d'avoir le courage de ne pas ratifier ce texte. Le vote doit avoir lieu demain. 59 départements sont en vigilance orange à la canicule, une très large moitié sud du pays, pourtour méditerranéen mis à part. Il y aura de fortes chaleurs la journée, jusqu'à 42 demain en Nouvelle-Aquitaine, et des températures pas vraiment fraîches la nuit, au-dessus des 20 degrés. En conséquence, la température de l'eau des rivières s'élève et cela pose problème à EDF dans l'exploitation de ses centrales nucléaires. Elle utilise cette eau pour refroidir ses réacteurs. Au-dessus d'un certain seuil, elle doit les arrêter. Ce sera le cas demain dans le Tarn-et-Garonne pour la centrale de Golfech entre Montauban et Agen. L'épave du sous-marin La Minerve ne sera pas remontée, prévient le préfet maritime de la Méditerranée. Le lieu à plus de 2 km de profondeur au large de Toulon restera un sanctuaire maritime, explique-t-il. On a retrouvé le sous-marin hier, 51 ans après sa disparition. Une cérémonie dont la date n'est pas encore fixée sera célébrée sur ces lieux. 52 personnes étaient mortes à l'époque.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Avec cette première question ce soir, peut-on inviter Michel Houellebecq, Fabrice Lucchini ou encore Lynn Renault avec de l'argent public quand on est ministre de l'économie? C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron quand il était à Bercy. Des faits qui rappellent évidemment l'affaire François de Rugy, même si Patrice Moyon nous dit qu'il n'y a pas d'affaire François de Rugy. C'est quoi la différence entre ce qu'a fait finalement Emmanuel Macron? C'est comme nous disait Saverio Rojek, c'est parce qu'il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu ce symbole des homards ostensibles.
Ah, je pense qu'effectivement, les photos qui ont circulé ont fait beaucoup de dégâts, effectivement, les homards et les grands crus. Et d'ailleurs, Michel Sapin rappelle que, en ce qui concerne la cuisine de Bercy, c'était plutôt une cuisine familiale qu'une cuisine de grands restaurants. Et la cuisine dont François de Rugy a bénéficié, c'est celle de l'hôtel de Lassay.
Ouais. Enfin, c'est pas mal quand même, Bercy, entendu comme cuisine. Enfin, on va pas nous faire croire que c'est quand même sur le coude. C'est assez somptueux, fastueux.
Non, la cuisine de Bercy, c'est pas, je vous assure que non. Non,
c'est alors Antoine Boulet,
on mange, mais je veux dire, c'est pas,
ça n'a rien à voir avec, par exemple, le ministère
de
l'agriculture.
Les Français qui sont invités à ces dîners sont des contribuables. Ils sont invités dans les palais de la République à dîner. Donc, et alors?
Est-ce que ça veut dire que François de Rugy n'aurait pas dû démissionner Antoine Colonna?
Bah, écoutez, il a peut-être été un peu prompt à démissionner, il a peut-être pu attendre l'enquête, mais il a peut-être été l'objet de pression au sein du gouvernement.
Ça va, Rogec?
Moi, je pense qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin, au-delà de ces affaires personnelles et qui sont justement très symboliques. Mais
aller plus loin.
Voilà, non, mais on peut pas non plus tout enlever à la République. Au faste de la République est un faste qui est hérité de l'ancien régime, avec il y a un faste monarchique dans la présidence de la République, dans ses grands palais comme l'hôtel de Lacé ou au Sénat également. Je pense qu'on ne peut pas tout enlever parce que ça fait aussi partie des attributs de la République, des attributs de la France quand on reçoit des hôtes étrangers.
Savoir si
ça.
On veut moraliser, si on veut prendre en exemple ce qui se passe en Scandinavie où un ministre avait été obligé de démissionner pour une tablette de chocolat.
Olivier, moi je pense qu'il faut mieux réguler l'usage des palais officiels par les élus qui les occupent, par exemple François de Rugy, parce que oui, c'est de l'argent public. Je pense qu'il faut surveiller de plus près leurs dépenses, et ça, il y a eu plusieurs lois qui s'y sont attelées, donc les choses ont changé, il faut le reconnaître. Là, par exemple, la loi de moralisation de la vie publique, c'est la question de l'IRFM, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Mais voilà, je pense pas non plus que la France ne doit pas tomber dans ce régime de moines-soldats à la Scandinave dont on parle.
Antoine Boulay, vous êtes d'accord avec ça, ce que disait l'autre Antoine Colonna, qui parlait de dérive à la Scandinave?
Non, mais je pense qu'a dit Antoine Colonna est très juste, c'est-à-dire ce qui compte, c'est ce qui est efficace. Ça, c'est une chose. La question de la régulation, qui régule? Il faut voir, il y a un budget qui est alloué par le Parlement, il y a beaucoup, je veux dire, si on s'attaque à la chasse au gaspille, c'est simplement ça que je dis, c'est-à-dire que si la chasse au gaspille, c'est les repas des élus, croyez-moi, on fait fausse route.
Vous pensez qu'après la crise des Gilets jaunes, la crise que la France a vécue ces derniers mois,
je ne crois pas que dire à des gens qui se...
Je ne crois pas que
ces images de Omar n'étaient pas souhaitables, mais je ne crois pas que confirmer des gens, en l'occurrence les Gilets jaunes dont vous parlez, ou certains d'entre eux qui ont un diagnostic erroné, les confirmer dans leur erreur, moi je ne suis pas homme politique, je vous dis ce que je crois. Je crois que les problèmes de finances publiques en France, ce n'est pas les repas des élus. Et que s'attacher, certes le symbole est important, mais quand on s'attaque uniquement au symbole, en fait on perd de vue l'essentiel. Et je vous dis que par exemple pour Emmanuel Macron, avoir 3 dîners d'affilée ou 3 réunions avec des représentants de la société civile d'affilée, y compris des gens de culture, quand on sait le poids que la culture pèse dans le PIB en France, c'est pour lui du travail. Et que donc, il faut bien, quand il travaille pendant des heures,
la
de repas, bah oui, il grignote et il boit.
Voilà. La Comment question, c'est quel était le but,
le
de,
but
ces
de ces dîners?
Est-ce
d'avoir
qu'il
des
servait
élus
le gouvernement à l'époque de François Hollande,
ça, c'est
ou
une
est-ce qu'il servait sa future
politique.
Campagne présidentielle?
Ce que vous donnez là est une analyse politique.
On fait beaucoup d'analyses politiques chez les informés.
Mais c'est pas une analyse morale.
C'est pas juridique. Antoine Colonna, est-ce qu'il faut se réjouir que les politiques soient maintenant soumis au contrôle de la presse, contrôle un peu permanent?
Il n'y a pas que de la presse, de la loi également.
Il y a effectivement ce contrôle de la presse qui est intéressant. Quand la presse est un contre-pouvoir, effectivement, ça veut aussi dire que s'il y a des choses qui ne sont pas sorties, peut-être qu'au sein même du pouvoir, les contre-pouvoirs ne sont pas assez forts, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que s'il y avait plus d'inspections à l'Assemblée et dans d'autres services, alors personne ne s'amuserait à rouler autour de la ligne jaune trop...
Parce que la déontologue de l'Assemblée nationale, elle n'a jamais rien découvert.
C'est peut-être pour ça où la presse a effectivement son rôle à jouer de poil à gratter. Et sans doute même.
Patrice Moyon, ce rôle de la presse, Mediapart, dénoncé parfois par certains comme une sorte de grand inquisiteur.
On serait tous au chômage.
Que les hommes et les femmes politiques doivent rendre des comptes, c'est évidemment normal. Que des journalistes et des médias enquêtent, c'est évidemment normal. Après, c'est une question de hiérarchisation de l'information. Là, en l'occurrence, pour moi, j'insiste, pour moi, il n'y avait pas d'affaire de Rugy. Si ce n'est peut-être sur la façon dont il a utilisé son indemnité parlementaire
pour financer son parti.
Là, effectivement, il y avait un problème de l'égalité. Mais pour le reste, pour moi, il n'y avait pas d'affaire. Donc, après, on peut en discuter, hein, mais on est quand même dans un système un peu de meute. Donc, il y a un moment, il y a un signal qui est donné et pour moi, il y a une forme de curé. Et en l'occurrence, pour moi, c'était... Enfin, voilà.
Est-ce qu'on peut faire un peu de latin? Le monde a changé.
Bon, alors attendez, vous savez, j'ai un truc à vous proposer. On va passer à un autre thème. Parce que, après l'ancien ministre de l'Environnement, donc François de Rugy, eh bien, il y a un encore plus ancien ministre de l'Environnement. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Nicolas Hulot, hein, qui publie une tribune, vous avez vu ça sur le site de France Info aujourd'hui. « Ayez le courage de dire non », dit Nicolas Hulot. Il écrit à l'adresse des députés « Non au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA ». Selon lui, la ratification de ce CETA ne servira pas, je le cite, hein, « notre santé, nos agriculteurs, ni le climat ». Il a raison, Antoine Colonna ?
Alors ça, c'est un avis. Hein. Oui, je le suis à 100%.
Ah, mais demain, vous avez le droit d'avoir des avis.
Demain, c'est amusant parce que vous avez Greta Thunberg qui vient à l'Assemblée nationale.
Oui.
Donc l'image totale de l'écologie, l'ayatollah de l'écologie vient nous visiter.
L'ayatollah de l'écologie.
Et en même temps, vous avez en face des députés
réalité, Antoine Colonna.
Qui disent... alors il faut la recevoir, elle est fantastique, elle va tout nous expliquer, tout nous faire comprendre. Et en même temps, il s'apprête à voter le CETA, qui est exactement l'opposé de ce qu'elle prône, de ce qu'elle plaide. Donc là, il y a une contradiction pour nos députés, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux.
Vraiment, Antoine Boulay, c'est votre avis également ? Le CETA, c'est l'exact opposé de la défense de l'écologie ?
Je ne le pense pas. Je pense en tous les cas que ce qui est intéressant, c'est que le choix de ratification par le Parlement français et par la procédure parlementaire est un choix démocratique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce que vous savez que depuis le traité de Lisbonne, l'Union européenne aurait pu faire le choix d'opter pour une ratification par le Parlement uniquement. Donc, il y a un débat démocratique. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille affubler le CETA de tous ses mots. Non.
Ça verrait Rojek.
La question, c'est aussi la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que Nicolas Hulot va être écouté dans cette tribune ?
Alors, c'est la deuxième
voilà,
question.
Est-ce qu'il va être suivi ? Et ça, je pense que malheureusement, non. Je pense qu'il a plus de poids dans cette majorité En Marche et qu'il va être entendu, écouté par ceux qui sont déjà acquis à sa cause. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour répondre à votre question précédente, faut-il s'inquiéter du CETA ? Alors, je suis pas une grande spécialiste, mais visiblement, oui. Visiblement, ce qu'on nous propose dans ce traité, ce sont des normes par le bas, si j'ai bien compris. C'est faire entrer de la viande bovine qui est nourrie aux farines animales, alors que c'est interdit en France et en Europe depuis bien longtemps. C'est autoriser 46 pesticides qui sont autorisés au Canada. Ils sont interdits en France et en Europe. Et là, alors, ce qui est assez intéressant politiquement, c'est qu'il y a un accord transpartisan entre la gauche et la droite. Par exemple, Christian Jacob, qui est le patron des députés Les Républicains, expliquait qu'il y avait un vrai risque de déstabilisation de la filière bovine, que ça va mettre nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale insoutenable. Voilà, mais ce qu'il faut comprendre fondamentalement avec ce traité, c'est qu'on abandonne effectivement la convergence par le haut qui était jusqu'à présent la règle de l'Union européenne.
Et on va s'intéresser à la stratégie plus de Nicolas Hulot. On va refaire de la politique politicienne ou très élevée, mais il est 20h20. Jules de Kiss, un tour complet de l'info avec vous.
Une attaque ce soir sur une base militaire française au Mali. Un véhicule piégé a explosé à l'entrée de ce site. Il y a 3 blessés d'après l'état-major des armées, des blessés français et estoniens. L'État français s'acharne contre le groupe Leclerc qui, lui, défend le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est la ligne de défense du distributeur à qui les pouvoirs publics réclament une nouvelle amende de plus de 100 millions d'euros. Bercy en exige une autre du même montant depuis un an. Leclerc est accusé de mettre la pression sur ses fournisseurs et de contourner les règles françaises en passant par des centrales d'achat à l'étranger, notamment en Belgique. 59 départements sont en vigilance orange à la canicule, une large bande qui va des Pyrénées aux Alpes, de la Sarthe au sud de l'Alsace. Le thermomètre ne passera pas sous les 20 degrés la nuit et continuera à grimper demain jusqu'à 42 en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs préfectures déclenchent le niveau 3 de leur plan canicule en Île-de-France, en Corrèze ou encore en Charente. Des mesures sont prises pour accueillir les personnes âgées, notamment des visites à domicile et des salles climatisées sont ouvertes. Boris Johnson ou Jeremy Hunt, l'un de ces deux hommes sera demain désigné Premier ministre britannique. Il succédera à Theresa May. Le premier ancien maire de Londres et grand favori ne ferme pas la porte à un Brexit dur, sans accord donc avec l'Union européenne. Les militants conservateurs avaient jusqu'à ce soir pour s'exprimer. Le vote électronique est terminé.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et les informés ont débat de cette tribune de Nicolas Hulot publiée sur le site de France Info ce matin. Tribune où il dénonce la ratification du CETA. Ce sera demain à l'Assemblée nationale. On se demande si Nicolas Hulot, lui aussi, n'a pas démissionné un petit peu trop vite. Patrice Moyon, en septembre, en fin août dernier, hein, il aurait peut-être été plus utile au sein du gouvernement pour tenter de faire plier le gouvernement plutôt qu'aujourd'hui publier une tribune.
Ben, c'est vraisemblable, oui. Il aurait pu effectivement être beaucoup plus efficace au sein du gouvernement. Ensuite, en ce qui concerne ces traités de libre-échange qui sont sous le feu de toutes les critiques, d'abord, en ce qui concerne l'Europe, c'est intéressant de voir que tout le monde aujourd'hui soutient les normes européennes, tout en on critique l'Europe quand on le veut, et puis là on voit qu'effectivement ces normes européennes, elles sont plutôt protectrices pour le consommateur. Ensuite, sur ces accords de libre-échange, on voit aussi que ces accords de libre-échange, ils peuvent être aussi une façon de faire monter en gamme des pays qui n'avaient pas les mêmes normes. Puisque là, en l'occurrence, par exemple, il y a une reconnaissance des normes de qualité alimentaire,
enfin,
des IGP.
On n'est pas là pour faire de la pédagogie auprès des Canadiens, quand même, si?
Non, mais il y a une reconnaissance des IGP européennes au Canada, par exemple. Ensuite, quand on regarde les chiffres du commerce, la balance du commerce, le commerce agroalimentaire européen était déficitaire il y a une quinzaine d'années. Cette année, l'an dernier, il a dégagé 23 milliards d'excédents. Donc, on voit que c'est pas forcément négatif. Quand on prend.
Vous êtes marrant, les informés, ce soir, parce que vous répondez à chaque fois à côté de la question que je vous pose. Je vais interroger Samuel Rojek sur le CETA, elle me répond sur Hulot. Je vous interroge sur Hulot, vous me répondez sur le CETA. Antoine Boulet, est-ce que si vous allez répondre à la question que je vous pose, est-ce que la stratégie de Nicolas Hulot est compréhensible d'être rentré au gouvernement, d'en être sorti avec fracas, et puis maintenant de faire une tribune tonitruante?
Je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Hulot, comme Corinne Lepage, comme d'autres acteurs du monde de la mouvance environnementaliste, ne se soucie plus de politique institutionnelle et que c'est plus son sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il a une sincérité, on peut la lui reconnaître. Et ça, c'est souhaitable, il dit ce qu'il pense.
Mais ça sert à quelque chose?
On en parle aux informés, ça prouve que ça a un écho.
Là, vous gagnez, vous marquez un point en fin de
mais, non, Adèle, pardon, ça va.
Nicolas Hulot reprend sa liberté de parole, il l'exerce, et surtout, il faut lire précisément ce qui est écrit dans sa tribune. Il dit qu'il a échoué, c'est un aveu d'échec, hein, parce que le CETA, ça fait 2 ans que c'est négocié. Il dit qu'en tant que ministre de l'écologie en 2017, il avait essayé effectivement de négocier au mieux cet accord, et ce qui, dans la tribune, il dit qu'il a échoué à apporter les garanties nécessaires sur des sujets comme le veto climatique, les farines animales, ou encore les nouveaux OGM. Donc voilà, il reprend sa liberté de parole. La question, est-ce que sa parole a un poids? Voilà.
Antoine Col, oui.
La question, c'est que ces traités se négocient de très longue date. Par exemple, le Mercosur, qui vient d'être, non pas ratifié, mais disons conclu au niveau de la Commission, enfin de l'Union européenne, ça fait 20 ans. Et donc, ça pose un problème parce qu'on dit, mais on nous cache tout. Le problème, puisque là aussi, j'ai négocié une PAC, une réforme de la politique agricole commune.
Enfin, vous avez fait des choses.
Stéphane Le Foll, je n'étais que son chef de cabinet, mais on observe que quand vous êtes dans une négociation internationale, vous ne pouvez pas rendre publiques vos positions parce que, évidemment, en rendant publiques vos positions pour rendre compte devant votre population, devant vos électeurs, vous vous affaiblissez dans la négociation. Puisque,
comme au poker, quoi.
En quelque sorte, puisque vous jouez au poker avec les autres pays, mais donc vous ne pouvez pas révéler votre jeu, parce que si vous le révélez à votre population, vous le révélez aussi aux personnes avec qui vous négociez.
Là, dans la question du CETA, ce n'est pas le cas.
Non.
On s'apprête à ratifier un accord
absolument,
tel qu'il est.
Je parle du Mercosur, je pense que la question démocratique autour des traités est une question qui revient sans cesse. Elle revient aussi dans l'opposition aujourd'hui contre le CETA, avec l'aventure Wallonne contre le CETA en son temps, il y a un moment donné. Et donc, on a l'impression qu'on nous cache tout. En réalité, c'est un conflit entre des niveaux de technicité qui ont aussi un intérêt économique, comme disait Patrice Mognon. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour aussi créer de l'emploi, de l'activité économique. Il n'y a pas des gens qui se lèvent un matin, qui se disent comment est-ce qu'on pourrait bien entuber les Français et les Européens, abaisser tous les niveaux et bien les emmerder pour que les Canadiens nous envahissent. C'est pas ça la vie.
Faites attention à votre vocabulaire, monsieur Boulet. Antoine Colonna, sur la stratégie de Nicolas Hulot, elle est lisible? C'est une bonne stratégie à votre avis?
Ah oui, bien sûr, elle est lisible. Il parle de ce qu'il connaît et il a tout à fait raison d'aller dans ce sens-là. On parle à l'instant d'intérêt économique. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'intérêt économique à assez court terme. Si on regarde un peu plus, avec un peu plus de recul, ces 30-40 dernières années, on voit la destruction totale de la paysannerie française. Je dis bien de la paysannerie, hein, j'ai pas dit de l'agriculture ou de l'agriculture intensive. La paysannerie, mon voisin est bourguignon, je pense qu'il sait de quoi je parle. Et c'est vraiment très triste.
Il y a des paysans ailleurs qu'en Bourgogne, oui, mais
il y en a de très bons, excellents.
Et en Bretagne.
Il y en a partout, il y en a partout en France, c'est ça ce qu'on veut dire, c'est qu'il y en a partout en France. Et que le problème, c'est qu'en 2040, on va devoir avoir recours à l'extérieur pour se nourrir, alors que c'est une première historique. La France, on est vraiment l'un de nos atouts majeurs, c'est ça.
Vous êtes devenu vachement écolo à Valeurs Actuelles.
Ah mais c'est une idéologie de droite, l'écologie, depuis toujours.
Expliquez-moi ça.
Oh, là, on va rester jusqu'à minuit, mais ouais. Je veux bien.
Parce que c'est une idéologie conservatrice.
L'enracinement, bien sûr. Ouais.
L'autre problème, ça va permettre aussi mais dans cette question des traités, de la négociation des traités à Bruxelles, que ce soit le CETA ou le Mercosur, c'est aussi, bien sûr, le poids des lobbies, le poids des grosses firmes dans la négociation de ces traités, et bien sûr le poids, en l'occurrence, dans le CETA.
Alors là, quand on prononce le mot, la lobby, ça y est, c'est fini.
Néanmoins, il faut le prononcer. C'est difficile d'avoir cette conversation, cette discussion, cet échange, sans parler de ce fait-là, qui est un fait majeur, qui est le poids de Monsanto, de Bayer Monsanto, dans la négociation à Bruxelles là-dessus, et dans le fait de lever les normes européennes pour faire entrer plus facilement leurs produits, dont les normes sont en deçà de nos normes sanitaires françaises et européennes.
Alors, sur les lobbies, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient dire des choses. Cependant, il est bientôt 20h30, on va laisser passer la météo, les infos, on va boire un verre d'eau et on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie des informés.
France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Sébastien Léas.
L'air chaud et sec envahit le pays et les températures s'envolent encore un peu plus. 59 départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange à la canicule. Demain, dès le lever du jour, il fera 24 degrés à Nice et même 26 degrés à Toulouse. L'après-midi, les maximales seront torrides. 33 degrés à Brest et à Bastia, 35 degrés à Lille et à Marseille, 37 degrés pour Nancy, Dijon, Caen et La Rochelle. On ira jusqu'à 38 degrés à Paris, Lyon et Tarbes, 40 degrés à Nantes et à Bourges, 41 degrés pour Limoges et même 42 degrés pour Bordeaux. Demain, le soleil régnera généralement sans partage. Sur les Alpes du Sud et les Pyrénées, quelques développements nuageux pourront donner naissance à des averses demain après-midi. Entre la baie de Seine, le Finistère et les Charentes, le soleil sera également contrarié par moments par des passages nuageux. Ces nuages pourront parfois lâcher quelques ondées. Ces ondées risquent même de tourner à l'averse orageuse en fin de journée. Sur le sud de l'Aquitaine, une dégradation orageuse est aussi attendue en soirée, accompagnée d'un net renforcement
de vent. Voilà les prévisions météo de Sébastien Léas, qui est l'homme le plus important de France Info. Tout le monde va le voir pour savoir à quel degré va être la canicule, que ce soit en Bourgogne, que ce soit en Corse, que ce soit en Bretagne. Bref, préparez-vous, il est 20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Soisigbourg pour l'info.
Une cérémonie pour enfants faire son deuil. Plus de 50 ans après, les familles vont pouvoir se recueillir à l'endroit où la Minerve a été retrouvée. Ce sous-marin a disparu en 1968 avec 52 marins à son bord. La ministre des Armées, Florence Parly.
C'est une journée très importante. Ça fait, je crois, plus de 50 ans que les familles attendaient ce moment. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité pouvoir relancer ces recherches qui avait été interrompu il y a bien longtemps. Nous allons pouvoir organiser une visite sur ce site maritime. J'ai demandé au préfet maritime d'organiser cela pour que les familles puissent enfin peut-être faire leur deuil. Pour le reste, nous verrons. Mais je crois que l'important, en tout cas c'est ce à quoi je m'étais engagée, c'était de retrouver cette épave.
Et l'épave de la Minerve qui ne sera pas remontée, elle restera un sanctuaire selon le préfet maritime de la Méditerranée. Une attaque à la voiture piégée au Mali, ça s'est passé dans le nord-est du pays, à l'entrée de la base française de Gao. Aujourd'hui, 3 militaires, des Français et des Estoniens ont été blessés. La canicule s'étend à 38 nouveaux départements, 59 sont donc placés en vigilance orange par Météo France, du centre-est au sud-ouest en passant par l'Île-de-France. Plusieurs ont activé le niveau 3 du plan canicule. Il va faire 38 dans la Somme, 39 dans l'Aube, jusqu'à 40 à Paris, dans l'Yonne et dans le Cher. Et conséquence de cette canicule, EDF va arrêter les deux réacteurs nucléaires de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Leur redémarrage est prévu pour le 30 juillet. Un très grave accident sur la 11 près du Mans. Deux personnes sont mortes et deux ont été gravement blessées dans une collision. Aujourd'hui, une voiture roulait à contresens et a percuté deux véhicules. L'autoroute a dû être coupée dans le sens Le Mans-Paris. Il a reconnu les faits. Le suspect interpellé ce matin dans le meurtre de Mamoudou Barry, ce doctorant franco-guinéen tué vendredi soir près de Rouen, a avoué pendant sa garde à vue. Garde à vue levée pour des raisons médicales. Le jeune homme de 29 ans a été transféré en hôpital psychiatrique. Clôture des votes au Royaume-Uni. Les les membres du Parti conservateur voter aujourd'hui pour élire le nouveau Premier ministre, sauf surprise, c'est le pro-Brexit Boris Johnson qui devrait prendre la place de Theresa May. Après des bombardements sur des camps de réfugiés en Libye, Paris demande à Tripoli de mettre fin à l'enfermement des migrants en transit sur son territoire et de les mettre en sécurité. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 5200 personnes sont actuellement dans des centres de détention dans le pays. Les coureurs au repos sur le Tour de France, deuxième journée de pause avant de reprendre la route demain pour la dernière semaine de course. Julien Alaphilippe toujours en jaune, Thibaut Pinot pas mal placé non plus à la quatrième place. Et puis Mehdi Abed signe au FC Nantes jusqu'en 2022, le milieu de terrain dijonnais qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec les Fennecs vendredi soir. 20h33 sur France Info, on retrouve Olivier de Lagarde et ses informés.
20h-21h, les informés, Olivier de Lagarde.
Et toujours en compagnie ce soir de Saverya Rojec, journaliste politique présentatrice sur Public Sénat, Antoine Boulet, partenaire chez Havas, spécialiste en communication de crise, Antoine Colonna, rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles, et Patrice Moyon, chroniqueur économique et social et éditorialiste à Ouest-France. Je voudrais qu'on en vienne à la situation entre le Royaume-Uni et l'Iran, si vous le voulez bien. La tension est très fortement montée depuis l'arraisonnement par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz. Alors les Iraniens arguent qu'ils n'auraient pas respecté le code maritime, ce que contestent les Britanniques. Toujours est-il que le navire et ses 23 membres d'équipage sont retenus au sud de l'Iran. Cette situation est-elle potentiellement explosive, Antoine Colonna?
Ben oui, parce que c'est l'engrenage qu'on redoutait, en fait, qui n'était absolument pas logique, puisque dans la région, personne n'a intérêt à cette guerre. Personne n'a intérêt, ni l'Iran, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni l'Arabie Saoudite. Voilà, personne n'a intérêt à cette guerre.
Alors pourquoi la tension monte comme ça?
L'ennui, c'est parce que c'est un caractère humain. Les Britanniques, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ont arraisonné un pétrolier iranien à Gibraltar.
Voilà, absolument.
Téhéran hurle à la piraterie et dit, mais ne vous inquiétez pas, à la première occasion, on va s'occuper de vous. Et l'occasion est arrivée donc ce week-end. Et les commandos des Pasdaran ont héliporté des troupes sur le navire britannique et l'ont saisi. Il est aujourd'hui à Bandar Abbas, un petit port sur le détroit d'Ormuz. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on apprend également que 17 personnes, dont on ne connaît pas exactement la nationalité, mais semble-t-il une majorité d'Iraniens et peut-être deux ou trois occidentaux, ont été arrêtés à Téhéran et sont accusés d'appartenir à la CIA. La peine de mort par pendaison et la peine qui les attend. Donc tout ça
donc, c'est une,
cumulé,
voilà, c'est une nouvelle escalade.
Ça serait effectivement le problème, l'étape très dangereuse du premier mort. Et c'est là où ça devient catastrophique, d'autant plus que vous savez que le détroit d'Ormuz est un point stratégique. Il y a à peu près 20% du pétrole par voie maritime qui passe par le 30% du pétrole par voie maritime qui passe par le détroit d'Ormuz. Le blocage de ce détroit par l'Iran entraînerait une crise de très grande ampleur.
La guerre des tankers il y a quelques années, ça va y rejeter.
Ah, c'est assez inquiétant, ça c'est sûr. C'est un sérieux regain de tension. Les images qu'on voit depuis hier d'un pétrolier britannique avec un drapeau iranien, c'est clairement une provocation. Il faut aussi penser aux 23 marins qui sont à bord aujourd'hui.
Soit dit en passant, il n'y a pas de britannique, mais bon.
Là où je vous rejoins, c'est que c'est pas une surprise. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, avait annoncé qu'il y aurait des représailles suite, vous l'avez dit, à ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est-à-dire la capture d'un tanker iranien à Gibraltar. Et puis par ailleurs, il faut aussi se rappeler ce qui se passe depuis un an, la sortie de l'accord nucléaire par les États-Unis. Les Iraniens avaient prévenu, au moment de la sortie de cet accord il y a un an, ils avaient dit, si vous nous privez d'exporter notre pétrole, le pétrole, pour qu'on comprenne bien, pour les Iraniens, c'est 40% des recettes de l'État iranien. 40% vient du pétrole. La sortie de l'accord nucléaire les prive d'exporter ce pétrole. Donc, les Iraniens avaient prévenu, il y aura des représailles. Les représailles, c'est de s'attaquer, en effet, c'est ce qui se passe depuis quelques semaines, de s'attaquer donc au trafic maritime qui est dans le détroit d'Ormuz. Alors maintenant, juste pour terminer, pour être complet sur ce sujet, Londres s'est réunie toute la journée. Londres est en plus dans une situation très particulière.
Ils ont essayé qu'ils prennent de nouvelles sanctions.
Voilà.
Et ils annoncent des mesures de sécurité nouvelles pour les bateaux.
C'est là où c'est cocasse, c'est que Londres devait annoncer des représailles, enfin devait, mais plutôt par voie diplomatique, hein, c'est ce qui était dit depuis 24 heures. Et c'est là où c'est cocasse, c'est que ce que Londres propose ce soir, c'est une mission européenne de protection maritime. Une mission européenne, ah, alors que demain va être nommé à Londres le nouveau Premier ministre Boris Johnson, qui est un des plus fervents supporters du Brexit. Bon. Donc c'est là où c'est cocasse, c'est que la solution proposée par Londres, elle est européenne.
Ça veut dire, Roger, trouve ça cocasse. Est-ce que ça vous fait rire, Patrice Moyon?
La situation actuelle?
Ouais. Non, mais je parlais de Londres. Hein.
Non, il faut bien voir que en relançant les sanctions contre l'Iran, les États-Unis ont mis ce pays au bord du gouffre. Hein. Il y a 40% de la population qui vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, il y a la tentation de la fuite en avant aujourd'hui pour le gouvernement iranien, parce que avoir un ennemi, ça permet au moins de construire une cohésion interne pour éviter...
À la cubaine, quoi.
Voilà. Donc, on peut se demander ce qui peut arriver maintenant, effectivement.
Antoine Boulet.
Mais je pense que c'est un triple message que les Iraniens envoient à l'Europe et au monde. D'abord, il faut se souvenir que c'est un très vieux pays, c'est 25 siècles de diplomatie, donc ils ont roulé leur bosse et ils ont parfois des leçons à nous donner. En arraisonnant un navire britannique, primo, et en le faisant à la veille de l'arrivée de Boris Johnson, effectivement, dont le même Boris Johnson se signale par l'annonce d'un alignement total avec les positions américaines, ils envoient un signal en disant, n'oubliez pas que dans la négociation du traité en 2015, l'Europe a joué un rôle très important. Et donc, en quelque sorte, ils font appel et rappellent cette importance de l'Europe dans cette région du monde et dans l'équilibre des forces.
En arraisonnant un bateau, c'est quand même...
Oui. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le signal d'un certain égard est entendu, puisque la réaction britannique est effectivement d'appeler à une réaction européenne. Donc je pense que, effectivement, Antoine Colonna a raison, s'il devait y avoir un mort, ça serait une étape supplémentaire très importante dans cette tension. Mais je ne pense pas que les Iraniens, qui savent très bien ce qu'ils font et qui, pour le moment, gardent leur nerf, iront jusque-là. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter en ce moment, mais l'Europe devra prendre ses responsabilités, y compris en intégrant les Britanniques.
Les 17 pendus seront des morts.
Oui.
Alors après,
il n'y aura pas de mort occidentale, ils n'iront pas jusqu'au point
de vue occidental. Vous avez trois agents américains qui sont apparemment...
On n'a jamais d'agents de la CIA, oui, bien sûr. Ça n'existe pas. Mais Antoine Colonna, c'est vrai que cette crise intervient à un moment tout de même assez particulier, alors que Theresa May quitte le pouvoir, que Boris Johnson n'est pas encore installé. C'est une très mauvaise période pour le Royaume-Uni.
C'est une période effectivement d'instabilité. Donc, ils ne sont pas au mieux de leur forme. Ceci étant dit, la Grande-Bretagne a aussi une très ancienne diplomatie, connaît très bien la Perse et l'Iran. Elle y a joué un rôle parfois compliqué, mais...
Voilà, ah oui, parfois compliqué, et même parfois un peu tordu. Exactement. C'est ça que vous êtes en train de
liser dans mes pensées.
Ah ben oui, je fais ça aussi.
Non, mais ce qui est intéressant, je me répète, c'est de voir que la solution proposée ce soir par Londres est une solution européenne, alors que le Royaume-Uni, depuis des mois, tente
douloureusement
de sortir de l'Union européenne.
C'est un risque d'engrenage pour l'Europe, c'est-à-dire que pour le moment, l'Europe, l'Allemagne, la France tentent effectivement de rester en dehors de la bagarre et de jouer la... On se souvient de la visite d'Emmanuel Bonn en Iran et le président Macron est tout à fait favorable à une solution diplomatique. Donc il ne faut pas cesser d'entraîner nos alliés.
En attendant, la médiation d'Emmanuel Macron, on n'en entend plus beaucoup parler. Allez, il est 20h40, on va juste faire un petit détour par l'actualité avec Jules de Kiss et puis on va célébrer un anniversaire après.
14 États membres de l'Union européenne trouvent un accord de principe aujourd'hui pour se répartir l'accueil des migrants. L'Italie avait boudé la réunion à Paris, mais c'est tout de même une avancée notable dans un dossier qui patine depuis des années. La France, l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal, la Lituanie, la Croatie et l'Irlande sont notamment volontaires. Un soldat français et deux soldats estoniens blessés ce soir à Gao au Mali. Ils ont été la cible d'une attaque à la voiture piégée à l'entrée d'une base militaire de l'armée française, d'après l'état-major. Le véhicule n'est pas entré dans ce camp de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Météo France place désormais 59 départements en vigilance orange à la canicule. 38 de plus depuis le début de la soirée. Presque tout le territoire au sud de la Seine est concerné. La Bretagne et le pourtour méditerranéen mis à part. On dépassera demain les 40 degrés par endroit avec ces fortes chaleurs. Les rails peuvent se dilater, les caténaires peuvent lâcher. La SNCF active donc son plan pour faire face aux fortes chaleurs. Cela prévoit notamment une surveillance renforcée des infrastructures. Il pourrait y avoir quelques retards puisque l'opérateur peut être amené à réduire la vitesse de certains trains. En pleine crise autour du dossier iranien, l'Agence internationale de l'énergie atomique va devoir se trouver un nouveau patron. Son chef, un diplomate japonais, est mort des suites d'une maladie. Ce sont les analyses et les constats de cette agence de l'ONU qui font foi pour dire si l'Iran respecte ou non ses engagements sur le nucléaire militaire. Et puis on vient de l'apprendre, l'équipe de France décroche une médaille d'or au championnat du monde d'escrime. Les épéistes français battent les Ukrainiens 45 touches à 37.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on va fêter un anniversaire dans les informés. Happy birthday, mondialisation. Happy birthday, je ne vais pas aller plus loin parce que je risquerais d'altérer cette canicule que nous attendons tous. 75 ans, oui, 75 ans, jour pour jour, étaient signés les accords de Bretton Woods. C'est dans cette station UP du nord-est des États-Unis que sont signés 3 semaines seulement après le débarquement de Normandie. Et alors que la guerre est loin à ce moment-là d'être finie, que sont signés les accords qui dessine le nouvel ordre économique mondial, des accords qui bannissent le protectionnisme. Qui veut nous expliquer autour de cette table pourquoi ces accords ont été hyper importants? J'étais sûr que vous vous battriez pas comme ça, vous voyez.
Non, mais...
Alors, Patrice Moyon, de West France, vous allez nous expliquer. Non, Bretton Woods, vous avez 40 secondes.
Cet accord était important à un double titre. D'abord, parce qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale. On sortait aussi d'une grave crise économique, donc celle des années 30. Et que Roosevelt, Keynes, tous voulaient... pensait qu'avec des accords internationaux sur la monnaie, on arriverait finalement à construire la paix. Et c'est le multilatéralisme hérité de la Seconde Guerre mondiale qui est aujourd'hui en crise. Et quand Donald Trump aujourd'hui dit qu'il veut relancer, enfin, qu'il veut lancer la guerre d'échange en disant le feu et la fureur parce qu'il accuse l'Europe de manipuler sa monnaie, on voit bien qu'on est sorti du multilatéralisme de la Seconde Guerre.
Ouais. Antoine Cohn, je vois que vous donnez l'idée.
J'avais peut-être un autre souvenir de ces accords, même si j'étais pas né, évidemment. J'ai l'impression qu'on dépassait l'étalon or, qui n'était donc que garanti sur l'or, à en fait les États-Unis qui prenaient les dividendes de leur victoire qui allait arriver, puisque à l'époque où le texte est signé, en fait, la victoire n'est pas encore totale, le Japon est encore là. Et en fait, on passe à l'étalon hors dollar, c'est-à-dire que le dollar et l'or sont indexés. Et donc, en fait, ça a permis d'imposer la puissance économique américaine.
Et puis de bannir le protectionnisme, c'était quand même le libre-échange qui allait s'imposer.
Le projet initial, c'était pas le dollar, c'était pas le dollar comme monnaie internationale, c'était de créer une monnaie en fait internationale. Mais finalement, c'était l'idée de Keynes qui n'a pas été retenue.
Et notamment parce que les Britanniques, qui étaient l'autre partenaire important de ce traité, s'y sont fortement opposés.
La pensée communément partagée à l'époque, et à raison, on sortait d'une terrible guerre avec des millions de morts, c'était que le protectionnisme, c'est la guerre. Maintenant, ce que vous nous demandez, c'est 75 ans après, où en est-on? Qu'est-ce qu'elle a donné cette année?
J'adore quand vous faites les questions et les réponses.
Parce que je suis journaliste. et que là encore, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits. Je pense que l'extrême pauvreté, elle a pratiquement disparu aujourd'hui de la planète, excepté dans certains coins, en particulier l'Afrique subsaharienne. Je pense que l'état de santé globalement de la planète... Non, mais ce sont des
faits. Donc c'est un joyeux anniversaire.
Pas tout à fait, mais je pense qu'il faut d'abord regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui comparée à ce qu'elle était il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, et qu'il y a moins d'extrême pauvreté, que l'état de santé s'est amélioré, que la mortalité infantile est tombée à 5 pour 1000, que l'espérance de vie s'est accrue, voilà. En clair, mais pour tout un tas de raisons, y compris la mondialisation, l'humanité aujourd'hui, elle va mieux qu'elle n'allait il y a 20 ans.
Grâce à la mondialisation, ce qui est contre-intuitif, parce que aujourd'hui...
Là où nous, occidentaux, pour terminer, là où nous, occidentaux, on a un jugement qui est un peu biaisé. C'est que, effectivement, cette mondialisation, ce libre-échangisme, il a bénéficié avant tout aux pays pauvres, aux pays émergents, qui en ont énormément bénéficié depuis 20, 30, 40 ans. Je parle de la réduction de l'extrême pauvreté, de la mortalité infantile.
En revanche,
nous occidentaux, nous européens et l'Amérique du Nord, on en a été, impactés négativement. Et là, je pense bien sûr aux délocalisations. C'est en ça, je pense, au-delà de toute la question de la mondialisation financière, qui est un autre sujet à mon sens.
Parce que Bretton Woods...
C'est en ça que notre vision de cette mondialisation, elle est biaisée aujourd'hui. Parce que quand on regarde les faits sont là.
Bretton Woods, c'était aussi l'époque où le monde était dirigé par 5 pays, finalement, Antoine Boulet.
Oui, non, mais c'est la caractéristique du multilatéralisme inventé effectivement à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on avait des systèmes économique, macroéconomique en quelque sorte, cohérent. Certes, les États-Unis étaient plutôt des puissances montantes et les puissances européennes descendantes, mais de facto, au moment de ce croisement, en quelque sorte, les forces étaient réparties. Aujourd'hui, et de ce point de vue, il y a deux manières de voir Trump et de voir la crise du multilatéralisme actuel. Une manière qui est de voir en Trump simplement un populiste, un peu fou, impulsif, etc. Et une autre manière qui est de penser qu'il a un plan, en quelque sorte, et que d'ailleurs, il attend sa réélection pour passer à la phase supérieure avec la mise en cause des accords commerciaux, notamment avec la Chine, parce qu'il pense, lui, et en vrai dire, c'est pas uniquement lui, c'est toute une partie de l'administration américaine, et toute une partie aujourd'hui, à vrai dire, des économistes mondiaux qui étaient libre-échangistes jusqu'à une période récente, que ce libre-échangisme d'aujourd'hui, alors qu'il y a une inversion totale des rapports de force et une hyper-domination potentielle d'une puissance, présente des risques, y compris pour la paix du monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de fétichisme, le protectionnisme et la guerre. Bon, parfois, le libre-échangisme, ça peut être aussi la guerre ou la domination d'une puissance unique.
Donc, ce n'est pas un anniversaire, hein, là, c'est un...
Non, mais c'est à un moment donné où il faut repenser... C'est à un moment donné où il faut repenser le multilatéralisme. Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas, son homologue allemand, ont demander une initiative d'un nouveau multilatéralisme. Je pense que l'Europe a un rôle à jouer. Le cercle des économistes, lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence en juillet, a également appelé à ce qu'il a appelé à une convention de Genève, un congrès de Genève, pour réinventer un nouveau multilatéralisme. On en a certainement besoin. Mais Jules Lekis parlait du patron de la IEA, l'autorité sur l'énergie au niveau mondial. Ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que la mondialisation, le libre-échangisme, etc., ça se vit à travers d'institutions. En l'occurrence, l'OMC, elle a des bureaux, à un moment donné, c'est des gens, des personnes de chair et d'os. Il y a un organe, par exemple, qui s'appelle l'organe de règlement des différends. Il va de soi que quand vous avez des traités commerciaux, eh bien, à un moment donné, si vous avez des conflits, il faut des gens pour arbitrer. Eh bien, cet organe, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Et le nouveau round de négociation, dit de Doha, est également totalement arrêté. Ça fait 15 ans, en fait. Toutes ces choses-là sont des choses de tendance très longue. Donc oui, mille fois oui, on aurait pu ajouter le doublement du taux d'alphabétisation. Il y a énormément de paramètres de développement humain qui montrent que le monde, grâce notamment à cette grande circulation des échanges des hommes et des capitaux, a progressé. Mais en même temps, il faut inventer aujourd'hui quelque chose de nouveau.
Il faut un nouveau Bretton Woods, effectivement, après les désordres de la mondialisation financière qu'on a observé depuis une bonne dizaine d'années, le repli protectionniste de la Chine, des États-Unis auquel on assiste depuis ces derniers mois, effectivement, de plus en plus de voix appellent à ce nouveau Bretton Woods. Il est peut-être temps, effectivement, de l'inventer.
Antoine Colonna.
Oui, je ne peux qu'adhérer à ce qui vient d'être dit.
Bon, bah alors attendez, on va passer à l'heure.
La suite. Non, c'est vrai, et vous m'avez coupé mon élan, tant pis pour vous.
Patrice Moyon. Faut pas vous laisser déstabiliser, mon cher Antoine Colonna.
La crise actuelle, elle traduit surtout la montée de la Chine comme première puissance mondiale qui rivalise avec les États-Unis. Et donc, les crispations actuelles, c'est le résultat de tout ça, de cette crainte des Américains de perdre le leadership. Puisque ces accords multilatéraux, c'était la Pax Americana. Et aujourd'hui, on est face à la Chine qui veut imposer sa puissance.
Mais ne pas se laisser déstabiliser, aux informés, règle numéro une. Et vous allez en avoir besoin pour le sujet suivant, juste après le rappel des titres avec Jules Lekis.
Londres propose ce soir la mise en place d'une mission de protection maritime dans le détroit d'Ormuz, sous commandement européen. C'est la réponse de la Grande-Bretagne à la crise actuelle. Un pétrolier britannique toujours bloqué par l'Iran dans ce passage obligatoire pour sortir du golfe Persique. Une semaine plus tôt, c'est Londres qui a arraisonné un navire iranien au large de Gibraltar. Les Russes démentent ce soir être derrière le bombardement d'un marché dans le nord-ouest de la Syrie. Au moins 50 civils tués ce matin dans la province d'Idleb, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui pointe Moscou du doigt. Le territoire est encore contrôlé par des djihadistes que combat le régime de Bachar al-Assad et son allié russe. Conséquence directe de la canicule qui débute en France, la pollution à l'ozone, la circulation différenciée est donc décrétée en Île-de-France et dans le Rhône. Interdit de rouler dès demain matin dans le périmètre délimité par l'A86 pour les véhicules qui ont une vignette critère au-dessus du 2, alors qu'à Lyon et Villeurbanne, c'est en vigueur depuis la fin de l'après-midi pour les vignettes de 1 à 3. Il n'y a pas eu d'achat massif d'acide chlorhydrique en Essonne ces derniers jours, d'après le parquet d'Evry. Première conclusion d'une enquête ouverte la semaine dernière après le signalement de plusieurs magasins de bricolage. Le produit très inflammable peut servir lors de certaines violences urbaines selon les autorités. Et puis l'allocation de rentrée scolaire qui aide les parents aux revenus modestes à payer les cartables et autres fournitures sera versée le 20 août, annonce le gouvernement. Elle va de 368 à 402 euros en fonction de l'âge et de la classe de l'élève. Environ 3 millions de familles sont concernées.
France Info.
20h-21h, les informés, Olivier Delagarde.
Les derniers thèmes des informés ce soir, allez, on va parler des super-héros. C'est la musique des Avengers, ce consortium de deux super-héros. Les Avengers, non seulement contents de sauver le monde, aussi ravis de titre du film ayant rapporté les plus grosses recettes de l'histoire du cinéma, plus de 2,8 milliards de dollars depuis la sortie. Et en plus, c'est pas fini. Quand on sait que le film a coûté 500 millions de dollars, je vous laisse calculer le bénéfice. Qui, dans ce studio, a vu un film des Avengers ?
Moi.
Antoine Boulay.
Oui, oui.
Bon, alors, pourquoi les super-héros ont-ils autant la cote ?
Oui, les super-héros ont la cote parce qu'on est dans l'ère, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est très bien fait, mais aussi parce qu'on est dans l'ère des bullies.
Vous voyez, on parlait. Bullies.
Ouais, le bullying, c'est le harcèlement à l'école.
C'est pas un truc de boulet.
Non, c'est pas boulet. Au contraire, c'est vraiment le truc des gros bras, quoi, qui aiment cogner. Et donc, c'est Trump, Poutine, je sais pas quoi. Voilà, c'est les bullies. Donc, moi, je vais vous dire une chose.
Vous voyez une dimension politique au succès des Avengers.
Tout est politique, Olivier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en revanche, que le fait qu'il y ait dans la promo d'un film, qu'on mette en avant son succès économique et financier, alors pour le coup, Dieu sait que j'aime l'entreprise, etc., mais ça me semble navrant. Le nombre d'entrées, le budget, les recettes faites par un film.
Le film est sorti il y a trois mois, c'est la constatation du succès.
Qu'on en parle aux informés, par exemple.
Ça continue ça entretient une légende, mais je m'en fous de cette légende-là, que les gens sont là et on peut aussi dire combien de parts de pizza sont vendues pendant qu'on mange le film. Moi, ça ne m'intéresse pas. À tel point que j'ai pensé faire un acte de résistance.
Oui.
Oui. Et vous parlez d'un superbe film qui s'appelle Téhéran Tabou, qui est un long métrage d'animation. J'ai aucun intérêt dans l'affaire, qui parle de la vie.
Eh bien, vous viendrez nous en parler une autre fois, ça va rien. C'était pas mal tenté.
Le nom du film.
Non, mais bien sûr que les super-héros font rêver. Ils font rêver tous les enfants. Ils font rêver les grands enfants que nous sommes restés.
Mais pourquoi ? Parce que c'est aussi humaine ne nous suffit pas.
Les Avengers, ça s'explique assez facilement. C'est à l'américaine. C'est une stratégie à l'américaine. C'est du marketing. C'est 22 films en 12 ans. Donc c'est comme une série télé. Ça crée une addiction. C'est des épisodes. Et de là aussi s'explique le succès. Avatar ou le Titanic, c'était un one shot. C'était un film comme ça. Là, il y a eu 22 films. Film
comme
en 12
James
ans.
Bond, quoi.
Donc forcément, le public ne fait que croître. Le nombre de fidèles, le nombre d'addicts à ces séries, enfin à ces héros, ne fait que croître.
Patrice Moyon.
Moi, je n'ai pas vu le film, mais oui, on a
besoin. Oui, mais vous êtes journaliste, vous avez parlé d'un film que vous n'avez pas vu. Attendez.
Mais oui, on a besoin.
C'est comme une série télé.
Mais oui, on a besoin de super-héros. Hein. Ulysse ou l'Antiquité, on a besoin de rêver, on a besoin de. Et je pense aussi que la série, elle correspond aussi à l'esprit de l'époque. Enfin, quand on regarde les adolescents, ils aiment bien les séries.
Antoine Colonna.
Moi, j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir vu le film, parce que si j'avais vu, je vous aurais raconté la fin, et particulièrement.
Alors, je peux vous dire la fin. Les gentils l'emportent. Là, les gentils l'emportent,
c'est un film très américain.
On les retrouvera dans le 23e épisode. Je ne l'ai pas vu non plus, mais je peux vous raconter.
Mais pour préparer votre émission, j'ai regardé quelques extraits, et ça ne m'a pas fait rêver. C'est de la violence outrée. Enfin, c'est répugnant, quoi. Franchement. C'est à vomir, excusez-moi, mais j'espère que personne n'est à table. Mais
ça,
ne regardez pas
ce film. C'est critique de valeur actuelle.
Ah, mais complètement. Mais je ne mettrai jamais mes enfants à regarder des trucs pareils.
Vos enfants ne les regardent pas ?
Ah non.
Alors, puisque ça fait rêver tout le monde, sauf Antoine Colonna, on l'a bien entendu.
Et ses enfants.
Et ses enfants, Antoine Boulay. Quel super pouvoir vous aimeriez, de quel super pouvoir vous aimeriez être doté ?
Moi ?
Oui.
Eh bien, alors moi j'aimerais comprendre et parler toutes les langues. Voilà, ça j'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Pour aller voir Téhéran Tabou en version originale.
Je comprends bien.
Un film d'Ali Souzondé sur la jeunesse de Téhéran.
Ça derrière, Ojek.
Moi je suis une femme, la jeunesse et la beauté éternelle.
Attendez, alors là, je peux vous dire un truc, ce que vous venez de dire peut tomber sous le coup de la loi, là, méfiez-vous.
L'intelligence, l'altruisme, la générosité, voilà.
Ouais. Patrice Moyon.
Oh, moi, très modestement, il fait très chaud ce soir. Juste avoir un super pouvoir, me retrouver sur la plage du Prieuré, inverser l'ordre des marées, pouvoir me baigner en sortant.
C'est où la plage du Prieuré ?
À Dinard, en Bretagne.
D'accord. Bon, alors, Antoine Colonna.
Bien, vous vous souvenez que Dieu a posé la question au roi Salomon. Qu'est-ce qu'il voulait comme super pouvoir ? Et il a répondu la sagesse, qui était la clé, en fait, de tous les autres pouvoirs. Donc, je ferai la même réponse.
Non, mais attendez.
Mais vous n'êtes pas Dieu, cher ami.
Attendez, excusez-moi, mais vous êtes tous d'une hypocrisie absolue.
Quoi. Pas du tout.
La sagesse, être sur la plage du Prieuré, à Dinard, regarder un film iranien en version originale. Attendez, vous aimeriez être plus fort et plus costaud comme monsieur propre.
Plus riche.
Des coups de... Je parle pas pour vous, ça va aller, Roger, parce que vous êtes une femme, vous l'avez dit. Donc,
plus riche sur une plage de Corse, voilà.
Antoine Boulet, vous avez une deuxième chance.
Moi, j'aimerais savoir ce que vous, vous avez envie comme super pouvoir.
Non, mais c'est
Olivier.
Moi qui pose des questions. Puis des super pouvoirs, je vais vous dire, on les a déjà quand on réunit quatre personnes aussi intelligentes que vous dans un studio pendant une heure pour leur poser
oui,
des questions.
Oui, vous venez la sagesse. Oui, si vous venez la sagesse.
Oui, mais les super, problèmes, les super problèmes viennent sans doute avec les super pouvoirs.
Ça, parlez-en à Emmanuel Macron. Antoine Colonna, dernière chance de vous rattraper.
Moi, je suis têtu, je suis corse, donc je bouge pas.
Bon, eh ben, écoutez, on va s'arrêter là, donc à ce moment-là. Non, Saverio Rocher, vous voulez ajouter un petit mot?
Non, je suis corse comme Antoine Colonna, donc je suis d'accord.
Vous êtes Colonna, maintenant.
Nous allons nous retrouver sur une plage de Corse pour en discuter de ses super pouvoirs.
Et vous êtes tous bienvenus.
Et à grand pouvoir, disait, grande responsabilité, disait Spider-Man. L'homme araignée. Les informés, c'est terminé pour ce soir. On va peut-être jeter un coup d'œil sur les unes de vos journaux, si vous ne les avez pas oubliés, Antoine Colonna, à la une de Valeurs Actuelles cette semaine.
Eh bien, on revient à un grand comique qui est Louis de Funès.
Ah bon ?
Oui, exactement, puisqu'on, je pense qu'il y a un nouveau Rabbi Jacob remasterisé qui sort. Et on part là-dessus, et pour dire... En fait,
vous êtes dans le sens du sujet, alors.
Exactement, ce qui a changé, en fait, dans la France de Louis Funès, celle d'aujourd'hui. Pourquoi il était avec un tel succès à l'époque, est-ce qu'il en aurait encore autant aujourd'hui?
Et paf, Patrice Boyon, à la une de West France, demain.
Une très politique avec l'accord sur le CETA.
Bien, eh bien écoutez, les informés, c'est terminé pour ce soir. Mais nous, on n'en a pas terminé puisque nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Passez une très bonne soirée et à tout de suite.